J'invite maintenant Marc Baumgartner à venir sur scène pour la suite. Marc Baumgartner, il est... Ah, je vais te mettre la slide suivante. Il est directeur de l'association Elisa Asile à Genève. C'est une association qui fait du travail juridique et qui est notamment spécialiste de questions de regroupement familial, qui fait aussi du plaidoyer sur le sujet. Avant ça, il a travaillé pour le HCR dans le domaine du regroupement familial. Et puis, à côté, il mène encore une thèse un sujet lié à l'asile à l'Université de Neuchâtel. Et puis, il a un peu une double casquette ce soir parce qu'il a grandement contribué aussi à l'organisation de cette conférence. Il est membre du comité de la conférence Asile Romande. Voilà. Ah, mince. Pardon. Voilà.
Ben, merci beaucoup Louise pour cette présentation. Je suis vraiment content d'être ici aussi aujourd'hui et puis de représenter notre association Elisa Asile où il y a aussi des personnes qui sont présentes aujourd'hui ici. Effectivement, on est membre fondateur de la CAR, on est beaucoup impliqué dans les travaux de la CAR en général, mais on est particulièrement content d'être là cette année parce que ce thème est vraiment, compte tenu de l'importance du thème et la pertinence du sujet. Le regroupement familial étant une thématique pour laquelle Elisa Asile s'engage normalement davantage cantonal à Genève, notamment à travers son programme Réunir, qui aide les personnes relevant du domaine de l'asile à se réunir avec leurs proches. Et parce qu'il s'agit d'un processus particulièrement complexe, comme l'expliqueront d'autres intervenants après moi, notre accompagnement ne se limite pas aux aspects juridiques, il inclut également un soutien psychosocial ainsi qu'un accompagnement dans les démarches administratives. Mais face aux attaques répétées et préoccupantes contre le droit à la vie familiale des réfugiés, nous avons estimé, en tant que petite association, qu'il était nécessaire de nous investir également au niveau fédéral et de renforcer la coordination au-delà du Rustigraben afin de défendre ce droit fondamental. Dans cet exposé, je souhaite faire quatre choses. D'abord, analyser les attaques actuelles contre le droit à la vie familiale. Ensuite, souligner le rôle de la société civile dans la riposte face à ces attaques. Confronter le discours public opposé à ce droit avec la réalité des personnes concernées qu'on a entendues et qu'on va entendre. Et enfin, de proposer quelques pistes de solutions. Les attaques contre le droit à la vie familiale des réfugiés ne sont en soi pas des nouvelles. Prenons l'exemple de la motion intitulée « Pas de regroupement familial pour les personnes admises à titre provisoire » qui a été rejetée de justesse l'année dernière. Cette motion déposée au Parlement presque chaque année, d'après mes recherches depuis au moins 2011 par l'UDC, est toujours sous la même forme, le même titre et avec les mêmes arguments copie-collés. Son objectif est radical. Supprimer totalement le droit au regroupement familial pour les personnes admises à titre provisoire. Une telle mesure est extrême, pratiquement impossible à appliquer et placerait la Suisse en contradiction avec son droit interne ainsi que ses engagements internationaux. Jusqu'en 2024, le scénario était toujours le même. Le Parlement rejetait cette motion et l'UDC s'en servait pour renforcer son image de seule formation politique plaidant pour un durcissement systématique. C'est une stratégie de communication politique au prix de la stigmatisation d'une population déjà extrêmement vulnérabilisée. Ce qui a changé en 2024, c'est la position du PLR et du Centre. Sous impulsion de son président argovien, et je souligne ça parce que je suis argovien moi-même, le PLR a accéléré son rapprochement avec la ligne migratoire de l'UDC. En Suisse romande, certaines élus s'opposent à cette argumentation du parti et défendent encore des valeurs libérales. Nous sommes en voie aujourd'hui, alors je peux par exemple citer le conseiller des États Pascal Broulis. Mais ces figures restent minoritaires et ce réalignement politique a transformé la dynamique parlementaire. Désormais, il suffit que quelques élus du centre s'alignent avec des propositions pour qu'une partie de la population perde son droit à la vie familiale. Cela ne devrait, en théorie, poser aucun problème, puisque le centre s'imagine comme le parti de la famille. Pourtant, l'expérience de l'an dernier montre une autre réalité. La motion visant à supprimer le droit au regroupement familial pour les titulaires de permis F a été adoptée par le Conseil national avec les votes du centre. Il a fallu un rejet in extremis au Conseil des États pour éviter l'adoption de cette motion attaquant un droit fondamental. Face à cette nouvelle réalité, je pense que le rôle de la société civile est essentiel. Votre rôle est essentiel. Je suis convaincu que sans une mobilisation importante l'an dernier, le droit à la vie familiale pour les personnes admises à titre provisoire aurait été supprimé. Elisa Asile, avec ses partenaires, a mobilisé plus que 90 organisations à travers toute la Suisse et s'est activement battue pour que ce droit fondamental soit préservé. Mais les attaques ne cessent pas. Lors de la prochaine session parlementaire, des nouvelles attaques ou des nouvelles mesures menaçant la vie familiale des réfugiés seront débattues. Je n'ai pas de temps ici d'entrer dans tous les détails, mais je vous invite peut-être de vous abonner à notre newsletter pour rester informé sur cet enjeu central. Voilà, un petit coup de pub. Je reviens au cœur des choses. Il est crucial d'opposer un contre-discours aux forces politiques qui ne cessent de réclamer le durcissement des règles migratoires. Il faut rappeler qu'en Suisse, contrairement à l'impression qu'on peut avoir en suivant les médias, il n'y a pas de consensus pour une restriction systématique des droits des migrantes et des réfugiés. Nous ne sommes pas d'accord et nous devons le dire haut et fort. Je suis sûr, par exemple, que M. le conseiller national va revenir sur son succès de mobiliser plus que 100 000 personnes à signer une motion pour préserver ce droit en 24 heures. Et ça aussi témoigne qu'une partie importante de notre population souhaite honorer la tradition humanitaire de la Suisse. Et nous ne sommes pas d'accord avec les propositions de durcissement, car nous connaissons la réalité des personnes qui nous accompagnent. Le processus de regroupement familial, comme vous le savez, il est complexe, épuisant et aboutit trop souvent à un échec. La temporalité même de ces procédures, leur durée interminable, représente une souffrance immense. Il ne faut jamais oublier que chaque jour d'attente prolonge la séparation des familles. Et j'aimerais insister sur cet aspect de temporalité. L'attente est une réalité omniprésente et douloureuse dans ce processus. D'abord, il faut attendre d'obtenir un statut légal en Suisse avant de pouvoir invoquer le droit au regroupement familial. Or, avec les retards actuels dans le traitement des demandes d'asile, de nombreuses personnes restent dans l'incertitude pendant de longues périodes. Si ensuite on a la malchance d'obtenir le statut le plus restrictif en termes de droit, une admission provisoire, pour celles et ceux qui fuient la guerre ou les violences généralisées, l'attente se prolonge encore avant même de pouvoir entamer une procédure en raison des délais d'attente. Puis, une fois la procédure en cours, l'attente continue. Ce processus étant d'une grande complexité, un accompagnement est indispensable. Mais là encore, il faut patienter. Nous, Elisa Asile, faisons partie du problème car nous avons des capacités limitées pour traiter ces démarches des fois extrêmement complexes. Alors, on attend. Il faut attendre la réponse des autorités cantonales. Il faut attendre le SEM. Il faut attendre un rendez-vous à l'ambassade. Aujourd'hui, par exemple, pour obtenir un rendez-vous à l'ambassade d'Islamabad, il faut attendre une année. Il faut attendre les documents de voyage, les visas de sortie, etc., etc. Cette attente interminable s'inscrit dans un dispositif bureaucratique qui, dans les faits, empêche un grand nombre de personnes nécessitant une protection internationale d'exercer leur droit à la vie familiale, un droit pourtant inscrit à la Constitution suisse à l'article 13. Mais cette attente, comme nous, professionnels de la domaine de la migration, le savons bien, engendre de la souffrance. Les réfugiés, séparés de leurs proches à cause de la guerre et des persécutions, subissent une séparation involontaire. Prolonger cette séparation peut avoir des conséquences dévastatrices, tant pour celles et ceux qui vivent en Suisse, que pour leurs proches restés dans des situations potentiellement dangereuses à l'étranger. Pour les personnes qui attendent à l'étranger, nous savons par expérience qu'elles se retrouvent souvent dans des conditions extrêmement précaires, voire dangereuses. Il ne faut pas oublier que les mêmes raisons qui ont poussé la personne réfugiée en Suisse à fuir affectent aussi les membres de la famille qui n'ont pas pu partir. On l'a entendu tout à l'heure. Beaucoup d'entre eux se retrouvent bloqués des fois dans des pays tiers, vivant dans une précarité des fois extrême parce qu'ils n'ont pas de réseau de soutien. Pour celles et ceux en Suisse, le poids psychologique est immense. Ils et elles s'inquiètent en permanence pour leurs proches. Cette angoisse, combinée aux restrictions de voyage, voire interdiction en voyage, comme on a vu aussi, imposée aux personnes avec une protection en Suisse, ainsi que la longueur excessive des procédures, rend la vie familiale pratiquement impossible. Et lorsque les enfants sont concernés, la situation devient encore plus alarmante. Cela complique aussi l'intégration. Comment peut-on réellement s'installer et construire un avenir en Suisse lorsqu'on est bloqué dans un entre-deux insoutenable? Et c'est comme ça, les conséquences ne concernent pas seulement les individus en Suisse et leurs familles à l'étranger, mais aussi à un coût pour notre société dans son ensemble. La logique actuelle de la Suisse est la suivante. Intégrez-vous d'abord et après, éventuellement, vous pouvez faire venir vos proches. Pourtant, les études montrent que l'approche inverse a beaucoup plus de sens. La séparation entrave activement l'intégration tant que les procédures de regroupement familial plus rapides faciliteraient justement cette intégration. Et au final, cela bénéficiera aussi la société suisse dans son ensemble. Ce que nous devons changer, c'est l'utilisation des restrictions au droit à la vie familiale comme outil de contrôle migratoire. En termes quantitatifs, on le sait, les réfugiés ne représentent pas un facteur significatif de la migration vers la Suisse, et encore moins dans le contexte du regroupement familial. Parmi tous les permis de séjour délivrés pour le regroupement familial, ceux accordés aux personnes au bénéfice du statut de réfugié représentent moins que 5%. Quant aux personnes admises à titre provisoire, elles constituent une fraction encore plus infime, moins de 0,5%, soit seulement à peu près 100 personnes par année. C'est ni le lieu et le moment pour ouvrir un débat plus large sur la migration, en tout cas pour moi, mais personnellement, je suis convaincu que les personnes ayant obtenu un statut en Suisse devraient bénéficier d'un processus de regroupement familial rapide, équitable et efficace. Toute autre approche relève d'une cruauté inutile. Prenez par exemple l'exemple des délais d'attente arbitraires. Quel est leur but réel alors que d'autres conditions strictes doivent être remplies? Si une personne atteint rapidement l'indépendance financière, pourquoi continuer à lui imposer des délais supplémentaires? Ces attentes ne font que prolonger la séparation et elles n'ont aucun impact réel sur la régulation des flux migratoires à long terme. Dans ce contexte, je me réjouis que la Cour européenne des droits de l'homme a imposé certaines limites à ces pratiques et exige que les États prennent en compte des circonstances individuelles des personnes. Au-delà des aspects juridiques, nous, professionnels du domaine migratoire, que nous travaillons pour les autorités, les associations ou pour d'autres structures, devons prendre conscience de la souffrance que ces attentes engendrent et collaborer pour fluidifier les procédures. Le dossier qui reste un mois sur un bureau, il a déjà franchi plusieurs étapes à part avant et devra encore passer d'autres. Un mois par-ci, un mois par-là, et on arrive rapidement à plusieurs années de séparation supplémentaires. Pour les associations présentes aujourd'hui qui ne sont pas directement impliquées dans ces procédures, mais qui accompagnent des personnes concernées, votre rôle reste néanmoins crucial. Il est essentiel que les personnes que vous suivez et qui sont séparées de leur famille soient informées du cadre juridique applicable à leur situation, qu'elles anticipent les conditions à remplir et qu'elles bénéficient d'un accompagnement adéquat. Et si ce n'est pas le cas, votre responsabilité est aussi de les orienter vers des structures ou associations comme la nôtre qui peuvent soutenir dans ce processus. Et je n'ai pas du tout abordé les questions des délais maximaux imposés aux personnes pour remplir les conditions et déposer leur demande de regroupement familial. Mais ces délais existent et c'est pourquoi votre rôle est d'intégrer cette thématique dans vos interventions dès le début. Si vous accompagnez des personnes relevant du domaine d'asile, vos protocoles et procédures doivent inclure la question du regroupement familial, afin de garantir qu'elle soit prise en compte dans votre accompagnement. À ce titre, et encore une petite pub cachée, Elisa Asile organise chaque année des formations destinées aux professionnels pour les aider à mieux soutenir ces personnes dans ces démarches. Vous trouverez via le code QR notre site. Voilà. Et il incombe aux autorités, si vous êtes présents là aujourd'hui, de mettre à disposition les ressources nécessaires afin de garantir un processus de regroupement familial rapide, équitable et efficace. En revanche, il ne revient pas aux autorités de prolonger artificiellement les délais de réunification au-delà de la volonté explicite du législateur. Par ailleurs, la Suisse a aussi récemment été critiquée par la Cour européenne des droits de l'homme pour son application rigide et indifférenciée de ses exigences en matière de regroupement familial. La Cour a souligné que certaines personnes, comme les working poor, les mères célibataires ou les personnes en situation d'handicap, ne peuvent pas remplir les critères d'indépendance financière de la même manière que d'autres, et que cette réalité doit être prise en compte. Nous, les organisations de conseil juridique, nous battrons pour que la Suisse respecte cette obligation et applique une évaluation tenant compte des circonstances personnelles. Mais j'aimerais aussi rappeler qu'ici, qu'au-delà des principes juridiques, nous parlons toujours des destins individuels, des personnes réelles qui souffrent des décisions administratives abstraites. Et cela ne doit jamais être oublié dans notre travail quotidien. La société civile, y compris notre association, continuera à plaider pour que ces considérations soient reconnues et à lutter contre toute nouvelle atteinte à un droit aussi fondamental que le droit à la vie familiale. Merci beaucoup.